Voilà, alors la dernière fois, je m'étais arrêté au martyr d'Étienne. Martyr d'Étienne, donc ce diacre qui a témoigné jusqu'à sa mort. Et sa mort n'a certainement pas été pour rien, puisque bien suite à cela, il y a eu une persécution des disciples qui ont été obligés de partir. Mais c'est toujours le Seigneur qui est victorieux, puisque, eh bien, de par cette persécution va naître l'extension de l'Évangile de Jérusalem à Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, selon Acte 1:8 que le Seigneur Jésus avait dit. Et donc ils partent de Jérusalem et de la Judée pour se retrouver en Samarie. Et on va donc voir un autre diacre qui s'appelle Philippe. Ce n'était pas un des 12 apôtres, il y a un apôtre qui s'appelait Philippe aussi. Mais on va voir comment l'Évangile s'est répandu en Samarie. Les Samaritains qui étaient tellement détestés des Juifs. Et donc je vais reprendre à partir de Acte 8, verset 5, et je lirai le texte en deux fois aussi. Donc il est question de baptême dans ces textes. Et le titre de mon message, c'est « Un seul baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors Acte 8, à partir du verset 5. Philippe, descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie, et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé à acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, priez vous-même que le Seigneur pour moi, afin qu'il ne survienne rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Amen. Jusqu'ici pour le moment, la parole de Dieu. Donc ici, il est question de baptême en Samarie. Et ma vérité centrale, ça sera le baptême. Le baptême est le signe extérieur d'un changement de cœur intérieur et de l'engagement à servir le Seigneur. Le baptême est le signe extérieur d'un changement de cœur intérieur et de l'engagement à servir le Seigneur. Et premièrement, je vous propose de voir ce que n'est pas le baptême. Eh bien déjà, le baptême ne change pas le cœur. Le baptême ne change pas le cœur. Donc Philippe, il arrive donc en Samarie, suite à la persécution qu'il y a eu en Judée, à Jérusalem. Et c'est un évangéliste, Philippe. Il a été élu diacre aussi, en même temps qu'Étienne, donc un serviteur. Et beaucoup s'attachaient à ce qu'il disait. Et beaucoup ont cru, il nous a dit qu'ils ont cru et ils se sont fait baptiser. Et aussi à cause des miracles qu'ils voyaient, des guérisons, des exorcismes. Et beaucoup étaient impressionnés par cela, de la part de Philippe, que le Seigneur utilisait. Beaucoup de guérisons, beaucoup de conversions, et toute la ville est dans la joie. Quand l'Esprit Saint descend, il y a de la joie. Toute la ville est dans la joie, verset 8, et la joie, on se rappelle, c'est le fruit du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Donc les gens se sont attachés à la prédication de Philippe, qui s'accompagnait du miracle qui provenait de Dieu. Mais avant de s'attacher à la prédication de Philippe, les gens s'étaient attachés à une autre personne qui s'appelait Simon. Et Simon, c'était qui ? C'était un magicien. Un magicien, et donc les gens s'attachaient à lui. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient des miracles, entre guillemets. Ils voyaient des choses surnaturelles. Et ça les impressionnait. Des pratiques magiques surnaturelles, verset 11. Hein. Simon, on voit le personnage, il se disait, mais ce n'était pas l'exemple de modestie, il se disait lui-même quelqu'un de grand, verset 9. Et les gens croyaient que ses pouvoirs lui venaient de Dieu, verset 10, sauf que ses pouvoirs lui venaient du diable. C'était un magicien. Et puis voilà que, verset 13, je vous relis le verset 13, Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Un verset qui en dit long. Simon, il a cru, il s'est baptisé. Hein. Alors on se dit, c'est bon, voilà un vrai chrétien. Eh ben non. Son histoire nous met en garde contre une conception incomplète, voire fausse du baptême. Et on peut se demander, est-ce que Philippe n'est pas allé trop vite pour le baptiser ? Je pose la question. En tout cas, ce verset, le verset 13 que je viens de lire, nous dit que Simon, il fut impressionné par les miracles qui accompagnaient la prédication de Philippe. Donc, des miracles qui, eux, venaient de Dieu. Alors, est-ce que Simon, lui-même impressionné, il aspirait à avoir de tels pouvoirs ? Plus qu'à se repentir, et plus qu'à avoir la foi. Est-ce qu'il aspirait à ces choses surnaturelles encore plus merveilleuses, encore plus grandes, hein ? Mais soyons clairs. Les miracles ne sont pas un but en soi. Les miracles, à l'époque de Philippe, de l'église qui naissait, qui était en train de naître, c'était un signe que Dieu était à l'œuvre, attention, était à l'œuvre suite à la prédication de l'évangile des premiers disciples. C'était un signe que Dieu approuvait leur prédication, que Dieu était à l'œuvre. Aujourd'hui, il y a encore des miracles. Il y en a. Dieu n'est pas limité. Simplement, soyons prudents avec cela, parce que, voilà, des choses surnaturelles ne viennent pas toujours de Dieu. Les apôtres, ils étaient restés à Jérusalem, nous dit le texte. Et donc, ils apprennent quoi ? Ils apprennent que les Samaritains, ils ont aussi reçu la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont cru, et ils se sont fait baptiser. Mais, le verset 16 nous dit, ils se sont fait baptiser seulement au nom du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui manque là ? Qu'est-ce que Jésus avait dit avant de remonter au ciel ? Qu'est-ce que Jésus avait dit ? Qu'est-ce que Jésus avait ordonné même ? Au verset, en Matthieu 20, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, les apôtres, ils ont bien écouté, ils vont envoyer Pierre et Jean pour prier, pour imposer les mains aux nouveaux baptisés, aux Samaritains. Pourquoi ? Pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, Pierre et Jean envoyés. Jean, alors, là aussi, on voit une œuvre de Dieu. Parce qu'on voit combien Jean, l'apôtre Jean, avait changé. L'apôtre Jean, il avait demandé à Jésus, c'est en Luc 9, 51 et 55, il avait demandé à Jésus que le feu du ciel descende sur les Samaritains parce qu'ils refusaient d'accueillir Jésus. Et là, voilà que maintenant, le même Jean, il vient prier pour ces mêmes Samaritains, pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quel changement chez Jean ! Un changement opéré par le Saint-Esprit. Voilà le miracle du Saint-Esprit qui change les cœurs, qui change de fond en comble les mobiles du cœur. Alors oui, les apôtres ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Aujourd'hui, soyons clairs. De même que les miracles ne sont pas indispensables pour croire aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'imposer les mains à quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ce sont des pratiques qu'on trouve dans certaines assemblées, avec qui on a parfois des rapports fraternels. Hein. En tout cas, nous croyons que ce n'est pas nécessaire d'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Les apôtres, ils sont morts depuis longtemps. Ils ne sont plus là pour imposer les mains. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui se repent, qui se reconnaît pécheur, qui demande pardon à Dieu pour ses péchés, et qui croit que Jésus fils de Dieu, est mort pour ses péchés et ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit le Saint-Esprit. Il le reçoit, même s'il n'y a pas eu imposition des mains. Il reçoit le Saint-Esprit de la part de Dieu. Voilà le miracle, là encore. Alors, on ne le voit pas. De même qu'on ne voit pas le vent, on ne le voit pas, mais ça se produit. Ça se produit. Parce que le Saint-Esprit, la parole nous le dit. Donc, repentance et foi en Jésus, c'est ce que l'apôtre Pierre avait dit aux Juifs en acte 2, au moment de la Pentecôte. Il avait dit en acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Revenons à Simon. Simon, il nous a dit qu'il a cru et il s'est fait baptiser. Mais clairement, Simon ne s'était pas repenti. Il ne s'était pas repenti de sa magie. La repentance, c'est lorsqu'on fait demi-tour. Lorsqu'on a compris que telle pratique est mauvaise, est un péché. Et donc, on fait demi-tour dans cette pratique pour se tourner vers Dieu. On tourne le dos au péché pour se tourner vers Dieu. Et Simon n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que Dieu donne, il donne gratuitement, non seulement le pardon des péchés à celui qui se repent, mais il donne aussi le Saint-Esprit à tout croyant qui place sa confiance en Jésus. Et vous avez remarqué, Simon, il ne demande pas le Saint-Esprit pour lui-même. Voilà, il aurait pu le demander pour accomplir le bien, faire ce qui est juste. Non, il demande le Saint-Esprit pour quoi faire? Eh bien, pour pouvoir le transmettre. Et donc, il propose de l'acheter aux apôtres, le pouvoir de communiquer à son tour le Saint-Esprit, verset 19, par l'imposition des mains. Il veut ce pouvoir. Et l'imposition des mains qu'il prenait aussi pour une pratique magique. Et certainement qu'il a cru que cette pratique pourrait lui rapporter gros. Mais nous ne sommes pas rachetés par de l'argent ni de l'or, ni même par le baptême, ni par l'imposition des mains. Nous sommes rachetés uniquement par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, 18-19. Et donc Pierre fait des reproches à Simon. Il est en colère, il est remonté Pierre, et pour cause. Mais lorsqu'il y a des reproches, rappelons-nous que c'est toujours pour le bien de la personne. Et là, Pierre, il dit la vérité. Hein, sans détour, il dit la vérité à Simon. Et lorsque Pierre, donc au verset 20 à 23, et lorsque Pierre fait des reproches à Simon, vous avez remarqué, Pierre ne veut pas prier lui-même. Mais il demande aux apôtres de le faire à sa place. Simon, vu les paroles de Pierre, Simon n'était qu'un imposteur. Il était rempli d'amertume. Il était avide de notoriété, de prestige. Prestige qu'il craignait de perdre. Mais aussi, le texte nous dit qu'il était lié. Oui, il avait cru, il était baptisé, mais il était lié. Il était lié par des liens d'injustice, verset 23. Alors non, le baptême n'empêche pas ces choses-là. Il faudrait le baptême, eh bien, je vais y revenir, il faut un changement de cœur. Simon pouvait encore se repentir, est-ce qu'il l'a fait, on ne sait pas. Alors, qu'apprenons-nous sur le baptême suite à ce passage? Donc, clairement, le baptême n'est pas une pratique magique, surnaturelle. Le baptême n'enlève pas les péchés, ni ne sauve. Le baptême ne change pas le cœur. Simon n'avait pas le cœur changé. Le baptême, ce n'est pas non plus un certificat de vie chrétienne victorieuse, vie parfaite. Tu te fais baptiser, tu seras parfait. Non, ne disons pas ça, pour ceux qui sortiront évangélisés. Non. Alors, Simon le magicien en est le bon exemple. Hein. Son cœur n'était pas changé. Alors, c'est quoi le baptême? Alors là, on se rappelle, on en est au début de l'Église. Et donc, les gens, et c'est ce qui se passe ici, et aussi à la Pentecôte, ils croyaient, ils se faisaient baptiser en masse. En masse. Et vous avez remarqué, le verset 6, c'était l'expression d'un commun accord. D'un commun accord que les gens s'attachaient à la prédication de Philippe. Alors toi, qu'est-ce que tu crois? Et toi? Bon, c'est bien de partager, mais ce n'est pas parce que lui le fait que moi je vais le faire. Non, avant tout, c'est moi. C'est quelle est ma position devant Dieu? Est-ce que je me reconnais pécheur? Mais les gens, là, clairement, c'est d'un commun accord qui s'attachait à la prédication de Philippe suite au miracle qu'il faisait. C'était visible à la vue des miracles qu'il faisait. Et puis vous avez remarqué dans ce passage, le texte ne mentionne pas de confession de foi individuelle de la part des baptisés. Il y en avait beaucoup, mais il n'est pas question ici de confession de foi orale et personnelle de la part de ceux qui ont cru. Alors que, regardez ce que dit Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » On croit du cœur et on le confesse de sa bouche. Donc, ce qui doit précéder le baptême, c'est une confession orale devant l'Église, de la foi qui sauve, la foi personnelle. Donc le baptême, c'est avant tout une affaire individuelle, quand bien même plusieurs se feraient baptiser en même temps. Et donc, je continue la poursuite du texte, parce que la suite du texte va nous montrer, on va faire le focus sur un autre personnage, un autre homme, qui s'appelle, enfin, on ne sait pas son nom, mais il s'agit d'un haut fonctionnaire éthiopien, hein, l'eunuque éthiopien. Donc je poursuis ma lecture du verset 26 au verset 40 du chapitre 8. 8, 26 à 40. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. » Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Donc, amen, jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, pour mieux définir ce que c'est le baptême, donc mon deuxième point, eh bien voyons maintenant que le baptême, c'est le signe extérieur d'une foi intérieure qui sauve. Le baptême, c'est le signe extérieur de la foi intérieure qui sauve. Donc, l'eunuque, un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, il était venu à Jérusalem pour adorer, verset 27. Mais il n'était pas encore chrétien. Il était en recherche. Il était en recherche et il cherchait au bon endroit, c'est-à-dire la Bible, qui est la parole de Dieu. Et donc, il était de retour vers son pays, ayant quitté Jérusalem, et il lisait à haute voix sur son char le prophète Ésaïe. Celui qui cherche trouve, Dieu va lui envoyer Philippe, l'évangéliste. Philippe, il a entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi immédiatement, sans discuter. Il ne savait même pas pourquoi Dieu l'a envoyé, mais il était sûr que Dieu lui disait d'aller à tel endroit. Et vous avez remarqué comment le Saint-Esprit guide de façon précise. Le Saint-Esprit, il n'a pas révélé tout de suite à Philippe l'objet de sa mission. Il lui a demandé d'abord d'aller à tel endroit de façon précise, verset 26. « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Voilà comment le Saint-Esprit nous guide. Et donc Philippe, il obéit. Il obéit sans discuter, il n'en sait pas plus. Il a compris, Philippe, il va comprendre que si c'était pour une seule personne, eh bien, oui, il faut obéir. Parce qu'une seule personne peut en amener beaucoup d'autres, Seigneur. Une seule personne sauvée peut faire la différence. Donc Philippe obéit sans discuter, sans demander plus d'explications. Quand est-ce qu'il aura plus de précision? Ce n'est qu'après s'être levé et être allé là où le Saint-Esprit l'a guidé, que le Saint-Esprit va lui donner la prochaine étape. Prochaine étape, avance-toi vers le char, où se trouve ce char, où se trouve l'eunuque, verset 29. Et ça, c'est aussi un enseignement pour nous, que le Saint-Esprit y dirige, oui, dirige précisément, mais étape après étape. Au fur et à mesure que nous obéissons, si nous avons obéi à la première, il va nous montrer la prochaine. Et ainsi de suite. C'est pareil pour nous, parce qu'imaginez si on savait tout de suite. Si le Saint-Esprit nous avait donné toutes les indications tout de suite, l'endroit, le nombre de personnes, est-ce qu'on obéirait facilement? Je crois que parfois, on aurait plutôt tendance à « Oh là là, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre ». Non. Sauf que là, il s'agit de rencontrer un haut fonctionnaire de la reine, l'intendant de tous ses trésors. Et donc, Philippe a obéi à la première étape, le Saint-Esprit lui demande d'avancer vers ce char. Si nous nous mettons à la disposition du Saint-Esprit, en nous soumettant à lui, n'en doutons pas, il organisera des rendez-vous divins avec des personnes qui le cherchent pour leur annoncer l'Évangile, des personnes qui leur ont tout préparé. Et on peut prier pour ça, pour demain, pour notre sortie. Si nous nous mettons à sa disposition, nous allons voir, rentrer dans son plan et mieux comprendre son plan. Et puis il y a aussi une application pour les non-chrétiens. Eh bien, si vous cherchez sincèrement le Seigneur, il se laissera trouver par vous et vous le trouverez. Alors, comment se passe cette évangélisation? Eh bien, c'est Philippe qui engage la conversation, qui a été guidé par le Saint-Esprit. Il a entendu le prophète Ésaïe, l'Éthiopien, lire à haute voix le prophète Ésaïe. Et donc, Philippe, il ne va pas venir sur ses grands chevaux, condescendance, viens, je vais te montrer tout ça. Non, il lui pose une question. Comprends-tu ce que tu lis, verset 30? Le nuque, il aurait pu répondre, mais c'est qui celui-là? Est-ce que tu... de quoi te mêles-tu? Quand même, c'était quelqu'un de prestigieux. Mais non, tout prestigieux qu'il était, il a reconnu humblement son besoin d'être guidé et d'être aidé. Et donc, que fait-il? Il invite Philippe à monter dans son char. Philippe y a mis la forme et ça paye. Et là, eh bien, si c'est lui qui l'invite à monter dans son char, tout est préparé. Ça va faciliter l'échange qui va suivre sans s'imposer. Et il y a une application pour nous, pour évangéliser, hein, et ça nous prépare aussi pour demain, eh bien, de poser une question. C'est une bonne façon d'amorcer le contact avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand on pose une question, on se met à disposition de la personne, on se met à son niveau, et on ne se met pas au-dessus de la personne. Il n'y a pas de condescendance. Mais quand on pose la question, on veut mieux connaître la personne, on se met à son niveau pour mieux le rejoindre là où il est. Rappelons-nous, le message de l'Évangile doit toujours être adapté aux auditeurs. Attention, restons fidèles au message, mais adapté aux auditeurs, à leurs besoins, à leurs attentes, et connaître aussi à qui nous avons affaire. Et cela, c'est en posant des questions. On vous a préparé un sondage, plein de questions. C'est pas si long que ça. En tout cas, voilà, vous pourrez déjà en prendre connaissance si vous voulez, pour amorcer le contact avec les gens. Des questions qui font réfléchir. Le passage que lisait l'eunuque était, il lisait Ésaïe, le chapitre 53, versets 7 et 8, que je vous relis. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. Et l'eunuque demande alors, c'est lui qui pose la question maintenant, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il avait besoin qu'on lui explique, l'eunuque. Le terrain est tout préparé pour Philippe, et bien, surtout sur ce passage-là, pour lui annoncer l'Évangile. Le livre d'Ésaïe, on l'appelle souvent le cinquième évangile. Ce livre, il parlait prophétiquement de Jésus sans le nommer quelques 700 ans avant sa venue. Prophétiquement. Vous retrouvez au chapitre 53 notamment le portrait du Christ. Et donc Philippe lui annonce l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ? Ah bon ? Quelqu'un qu'on emmène comme une brebis à l'abattoir, à la boucherie, comme un agneau muet, qui ne dit rien, c'est une bonne nouvelle ça ? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que Jésus, il est l'agneau de Dieu, qui s'est laissé crucifier pour payer le prix de nos péchés. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et puis l'Éthiopien prend l'initiative de demander à Philippe, il a entendu l'évangile, il demande l'initiative de demander à Philippe s'il y a quelque chose qui l'empêcherait de se faire baptiser. Alors Philippe ne lui a pas répondu « Attends, tu n'as pas encore lu toute la Bible. » Même si c'est très bien de la lire en entier. Il ne lui a pas dit « Attends, tu n'as pas encore tout compris. » Il ne lui a pas dit « Attends, tu n'es pas encore devenu parfait là. » Non. Philippe lui a répondu « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et alors, a suivi une confession de foi, orale, toute simple de la part de l'eunuque éthiopien, pour que Philippe le baptise, l'eunuque a dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Verset 37. Donc il a entendu que Jésus, il est l'agneau de Dieu qui s'est laissé mener à la boucherie pour nous. Un texte donc qui nous en apprend encore beaucoup sur le baptême. Qu'est-ce que nous apprenons sur le baptême à partir de ce texte-là ? Eh bien, on peut dire que le baptême, c'est la ratification, c'est la signature lorsque nous signons de notre conversion. C'est la ratification de notre conversion et de notre engagement à suivre Jésus. Seigneur, je veux te suivre, je signe par mon baptême et je crois en toi. On a vu avec l'histoire de Simon que le baptême ne sauve pas, ni ne change le cœur. Et bien aussi, avec ce passage, la seule lecture de la Bible ne suffit pas non plus pour être sauvé, ni pour être pardonné de ses péchés. Les questions de l'Éthiopien montraient bien qu'il ignorait tout, encore tout de l'Évangile, malgré sa lecture d'un passage qui expliquait l'Évangile, Ésaïe 53. Un des pères de l'Église, donc de l'Église primitive, qui s'appelait Tertullien, il a dit ceci, « On ne naît pas chrétien, on le devient. » On ne naît pas chrétien, on le devient. Donc devenir chrétien, c'est un choix, une décision personnelle, une adhésion personnelle, non pas à une religion, non pas à une organisation, non pas à une doctrine, mais à une personne bien vivante qui est ressuscitée, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul sans péché, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. Jésus, il est au centre de toute l'Écriture, de l'Ancien au Nouveau Testament. Et je vous lis Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Déjà, donc, la conversion, c'est d'aller à Jésus, à une personne, et de se faire baptiser. Je vais y revenir au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu demande-t-il le baptême si le baptême ne sauve pas ? C'est quoi le baptême ? Le baptême, c'est le témoignage public devant l'Église, ici c'est devant un croyant, devant Philippe, de ce qui s'est déjà passé dans le cœur du croyant, à savoir une foi personnelle dans le sacrifice de Christ pour lui, sa repentance et son engagement à suivre le Christ ressuscité. Témoignage public. Et le baptême, donc, se fait au nom du Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, selon ce que Jésus a ordonné en Matthieu 28, 19. Et vous vous rappelez, Jésus lui-même s'est fait baptiser. C'est intéressant. Jésus lui-même s'est fait baptiser et lorsqu'il a été baptisé, une voix s'est fait entendre du ciel qui est celle du Père. En Matthieu 3, 17, nous lisons « Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Quand on se fait baptiser, eh bien, on témoigne publiquement qu'on a cru à Dieu le Père, le Père a témoigné de son Fils. Et lorsque nous nous faisons baptiser, selon ce que Jésus a demandé, eh bien nous témoignons que nous prenons au mot le Père, que nous croyons en Dieu, qui a lui-même rendu témoignage à son Fils. Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Il n'avait pas de péché. Jésus s'est fait baptiser, il n'avait pas de péché. Il était le Fils de Dieu, il était le seul sans péché. Son baptême, c'était le signe de son obéissance à Dieu, son Père, comme un exemple à suivre pour nous. Parce que le baptême, on peut dire que c'est le premier acte d'obéissance du croyant. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Premier acte d'obéissance du croyant envers Dieu, lorsqu'on a cru en son Fils. Et le baptême va montrer on veut cette vie nouvelle en union avec le Christ par le Saint-Esprit, qui a commencé déjà par la conversion dans le cœur. Le croyant, il a compris que il désire rompre radicalement avec sa vie passée. Le croyant, il doit se considérer comme mort au péché, par l'identification à Christ, qui est mort pour nos péchés. Et le baptême, vous vous rappelez, nous, on fait le baptême par immersion. Lorsqu'on plonge le croyant dans l'eau, eh bien, le croyant s'identifie à la mort de Jésus, qui est mort pour ses péchés. Le croyant s'approprie la mort de Christ pour lui, signifiant que lui-même, il est mort à son péché, à son propre péché. Et lorsqu'il ressort de l'eau, le croyant s'identifie à la résurrection de Jésus, qui est revenu à la vie, pour vivre cette vie nouvelle avec le Christ. Le baptême, c'est aussi le signe visible d'une alliance de grâce entre Dieu et le croyant. C'est le signe visible d'une alliance de grâce entre Dieu et le croyant. Les Juifs, ils étaient Juifs de par leur naissance. Ça, c'était l'ancienne alliance. Alors que dans la nouvelle alliance, on devient chrétien par une décision et on se fait baptiser adulte. Et on rentre dans le peuple de Dieu qu'est l'Église. Donc on n'est pas chrétien par notre naissance, même si nos parents nous ont baptisés étant enfants, ce n'est pas la même signification. Le baptême, c'est une décision personnelle qu'on prend à l'âge adulte. Même si un enfant peut croire, attention, prenons au sérieux un enfant qui dit croire en Jésus, quel que soit son âge, prenons-le au sérieux. Il faut bien différencier la foi et le baptême. Qui dit alliance, dit engagement à rester fidèle. Dans une alliance, il y a deux parties. Les deux s'engagent à être fidèles, du moins à vouloir le rester, pour le croyant, parce que Dieu, il est toujours fidèle. Et on peut voir un parallèle entre le baptême et le mariage. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, dans Apocalypse, l'Église, elle est appelée l'épouse de Christ. Apocalypse 21:9. Il y a un parallèle, ce sont tous les deux des alliances. Et moi j'aime bien, quand on m'invite à un mariage, j'aime bien entendre les promesses des époux, parce que pour moi c'est une bonne piqûre de rappel de ce qu'ont été mes promesses quand je me suis marié. Et j'ai besoin de me le rappeler. Ça m'a rappelé mon engagement, et engagement qui a eu lieu au moment du mariage. Dans une alliance, les deux parties signent leur engagement devant témoins. Revenons au baptême. Le baptême, eh bien, c'est en quelque sorte la ratification de la conversion du baptisé qui s'est déjà passée auparavant en privé. C'est un engagement, le baptême. C'est un engagement responsable d'une conscience sincère devant Dieu et devant les frères et sœurs de l'Église. Je lis 1 Pierre 3:21 qui parle du baptême. 1 Pierre 3:21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est un engagement. Et on a besoin de se le rappeler, même après des années de vie chrétienne. Et puis, dans une alliance, ce qui est à la fois beau et ce qui est rassurant, c'est que les deux parties s'engagent. Ce n'est pas un sens unique. Le baptisé, le croyant s'engage par le baptême à suivre le Seigneur dans cette vie nouvelle avec lui. Mais Dieu lui-même s'est engagé. Dieu qui est toujours fidèle. Et Dieu, il a déjà signé. Il a déjà signé son engagement d'être toujours avec nous. Comment est-ce qu'il a signé ? Il a signé avec le sang, par le sang de son fils Jésus, qui a initié cette nouvelle alliance. Jésus a signé de son sang. C'est Dieu qui a fait la plus grosse part. Le salut, le pardon de nos péchés, la promesse et le don du Saint-Esprit, la vie nouvelle, tout ça c'est son œuvre. Notre œuvre à nous c'est de le croire et de le suivre. Et quand quelqu'un se fait baptiser, il ne le fait pas tout seul dans sa baignoire, il le fait devant les frères et sœurs. Aujourd'hui il y a plusieurs églises, l'église en 2000 ans après. Le baptême c'est le signe visible de l'entrée du baptisé dans l'église universelle de Jésus-Christ. Le signe visible, parce que dès qu'il a cru, il était déjà rentré dans cette église. Et j'aime bien cette définition du baptême qu'on trouve dans la confession de foi d'un monsieur Héloïse en 1611 qui dit ceci. L'église de Christ est une compagnie de fidèles, séparés du monde par la parole et l'esprit de Dieu, unis au Seigneur et les uns aux autres par le baptême sur la confession de leur foi et de leur péché. Donc, eh bien, Philippe, il a baptisé l'Éthiopien. Et que se passe-t-il ensuite? Eh bien, Philippe, il va reprendre son chemin, encore guidé par l'Esprit, pour évangéliser les autres villes. Que se passe-t-il à ce moment-là? Puisque Philippe, il a été enlevé par l'Esprit Saint, l'Éthiopien ne le voit plus. Et vous vous rappelez Simon. Simon, il s'attachait à Philippe. Il s'attachait à Philippe. Or là, l'eunuque ne peut plus s'attacher à Philippe. Philippe a disparu. Est-ce que l'eunuque éthiopien était triste? Où es-tu, Philippe? Toi qui m'as apporté à parler du Seigneur. Non, le texte nous dit qu'il est reparti tout joyeux. L'eunuque, il avait le Seigneur dans sa vie, le Saint-Esprit, et ça suffisait. Tout joyeux. Et la joie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la vraie joie. Elle nous est donnée par le Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit, il nous guide comme il a guidé Philippe vers l'eunuque de façon précise, il nous guide vers Dieu, il nous guide vers ses œuvres qu'il a préparées d'avance, mais quand on obéit, le Saint-Esprit nous donne la joie, c'est encore l'œuvre de l'Esprit. La joie qui fait partie du fruit de l'Esprit, je vous relis le fruit de l'Esprit, Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit. Alors si vous manquez d'un des aspects du fruit, eh bien, demandez-le et il vous le donnera. Demandez-le à Dieu. Il vous donnera s'il vous manque un des aspects du fruit de l'Esprit. Alors le baptême, eh bien, voyons le baptême comme une bénédiction. Une bénédiction. Et l'eunuque éthiopien l'avait bien compris. Parce qu'il voulait être baptisé. Il n'a pas hésité. Il a compris que Jésus était mort pour lui. Et il est reparti tout joyeux. Le baptême est une bénédiction qu'on partage en église, en assemblée. On partage la joie du baptisé. Un seul homme peut faire la différence. L'eunuque, c'était un haut fonctionnaire de la reine. Et on peut penser que lui apporta l'évangile dans son pays, en Éthiopie, parce qu'on sait que l'Éthiopie a été christianisée très tôt. Et donc cet Éthiopien, il avait une forte influence, et certainement. On peut le croire qu'il a été pour beaucoup dans la christianisation de l'Éthiopie. La promesse du Seigneur Jésus, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, elle était en train de s'accomplir. Puisque là, on dépassait la Samarie, la parole atteignait l'Éthiopie et c'était pas fini et ça continue encore de nos jours. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu as voulu faire alliance avec nous, Seigneur. Déjà, nous montrer ce que tu as fait par ton Fils. Seigneur, tu as manifesté le plus grand amour en offrant ta vie. Et tu donnes, Seigneur, tu donnes. Tu as donné ton Fils, tu nous donnes ton Esprit. Seigneur, que nous le manifestions dans nos vies, ensemble en Église, pour que le monde voie la différence, te voie dans notre vie. Seigneur, fais-nous grâce, pardonne-nous lorsque notre témoignage n'est pas au beau fixe, mais Seigneur, tu nous fais grâce, tu nous aimes tant. Seigneur, tu nous relèves lorsque nous tombons et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, toute grâce. Seigneur, tu la mets, nous l'avons, parce que tu as payé assez cher pour cela, Seigneur, de ton sang. Alors, Seigneur, que nous vivions cette alliance avec toi, en voyant ta fidélité, Seigneur, et chaque jour que tu fais, et que nous aussi, Seigneur, nous te soyons fidèles, avec le désir de te plaire, de te suivre, et avec la joie, Seigneur, de se savoir dans ta volonté, Seigneur, de t'obéir. Parce que, Seigneur, il y a beaucoup de joie lorsque, Seigneur, eh bien oui, nous, même si on n'a pas envie, mais tu mets en nous l'envie de faire ta volonté. Reçois toute la gloire, Seigneur. Merci de bénir ton Église partout où elle se réunit, Seigneur. Et Seigneur, de toute façon, ton œuvre de salut s'accomplira, Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen.